passion, parce qu'elles partageaient toutes deux le prénom d'Yvonne, le goût de la soupe à l'oignon. Malgré les clients qui renouvelaient leurs avances, jamais on ne la fit monter. Yvonne retapait les chambres en toute innocence, causant avec les prostituées. Ne voulant pas s'imposer, elle acheta la presse, quittant les faubourgs de Cythère. Elle mit la main à la pâte, on la lui mit aux fesses. Ça veut tout dire, bonne à tout faire. Écœurée, quand elle s'en revint à Montparnasse, sa copine Yvonne lui dit: je songe à prendre ma retraite, car le temps passe, je compte sur toi mon petit. Elle a tout chamboulé, mis la télé dans les chambres, la stéréo, un ascenseur. Et ses anciens patrons fréquentent la rue de Langres. Elle a même un ordinateur. Yvonne déguste son café à la terrasse. Au mois de mai, les jours sont doux. Une jeune fille descend du train à Montparnasse, une écharpe rose à son cou.
Je m'appelle Léo Janis Tournier. Ça me fait drôle de me retrouver là, dans le studio de Radio Cartable, après une bonne dizaine d'années. J'étais élève à l'école Maurice Thorez A. Je suis arrivé au CP en septembre 2010, en même temps que Frédéric, qui se présentera dans quelques minutes. Et j'ai quitté l'école élémentaire en même temps que lui, en juin 2015. 10 ans ont passé, et aujourd'hui, je suis le plus jeune dans le studio. Bonjour à nos 4 invités. Présentez-vous à votre tour.
Bonjour, je suis Marie-Claude Boyer. J'ai travaillé en tant que conseillère pédagogique à la circonscription d'Ivry et j'étais là à la naissance de Radio Cartable. Et je suis toujours là.
Je suis Yolande Sicarelli, j'ai été longtemps enseignante, puis directrice à l'école Maurice Thorez A. Parallèlement, j'ai toujours été à l'association Aradel, depuis la création de la radio. Là maintenant, je suis à la retraite et je suis trésorière de l'association Aradel.
Bonjour, je m'appelle Frédéric Garbe et j'étais enseignant ressources Radio Cartable de 2010 à 2015. Et puis maintenant, je suis de nouveau enseignant tout court à Paris.
Eh bien, écoute, merci le petit Léo d'avoir accepté de tenir le rôle d'animateur du jour. Sais-tu que, comme ton ami Paul, le mois dernier, que tu vas passer un bon moment avec les vieux de la vieille radio. J'avais lancé le jeu du dico de Radio Cartable lors de notre première et deuxième émission, invitant les auditeurs à chercher le sens et l'origine de cette expression. Eh bien, on a reçu une réponse, la réponse d'Arlette, ex-enseignante ivrienne, qui est maintenant en retraite. Écoutons-la.
Bonjour Radio Cartable. Alors, je réponds à la question d'où vient l'expression « les vieux de la vieille ». Alors, en tant que vieille, je peux répondre. Quand on parle des vieux de la vieille, en général, c'est ceux qui ont bien vécu, qui connaissent pas mal de choses, ce qui n'est pas toujours vrai pour les vieux et les vieilles. Mais bon, voilà, moi, je suis assez moderne quand même. Donc, j'ai pris mon portable, j'ai écrit « les vieux de la vieille, origine de l'expression ». Et sur un des blogs, j'ai appris, ce que je ne savais pas d'ailleurs, que les vieux de la vieille, en fait, on parle des vieux de la vieille garde de Napoléon. La garde meurt mais ne se rend pas. Voilà, c'était cette garde-là qui était une fierté pour ces hommes et c'est resté une fierté pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui encore, on parle des vieux de la vieille, on ne parle plus de la garde, mais voilà, on généralise. Alors après, pour confirmer ma connaissance, ma nouvelle connaissance d'Internet, par Internet, j'ai ouvert La puce à l'oreille de Claude Duneton, un vieux bouquin, l'anthologie des expressions populaires avec leur origine, qui confirme le prestige inégalé de la vieille garde de Napoléon. Voilà, donc une vieille a répondu. Bonne journée, au revoir.
J'ai gagné une entrée gratuite à l'expo des 40 ans de Radio Cartable, à l'espace Gérard Philippe, en octobre, novembre. Au fait, pourquoi s'est-on réunis aujourd'hui ?
Le 6 février de chaque année, et ce depuis 1984, Radio Cartable souffle ses bougies. Et cette année, il y a 40 bougies sur le gâteau. Pour fêter ça, nous avons décidé de remonter le temps et de revenir à la naissance de Radio Cartable jusqu'à aujourd'hui. Après la première décennie, 1984-1994, thème de notre première émission du 14 décembre, nous avons évoqué sa deuxième décennie, 1994-2004, le 18 janvier. Aujourd'hui, nous parlerons de la troisième décennie, 2004-2014, enfin plutôt 2015.
Nous avons reçu le témoignage de Jacqueline, qui a écouté notre première émission historique, justement. Elle vit en Bretagne. Elle a été enseignante à l'école Solomon, où elle a travaillé avec d'autres fans de Radio Cartable, notamment Cathy Chouette, l'enseignante des petits loups du CP de Solomon, producteur de l'animal mystérieux. En direct, c'était super. Une tendre pensée à cette autre pionnière qui a animé Radio Cartable depuis sa création, qui nous a quittés.
Je m'appelle Jacqueline et j'enseignais à l'école Jacques Solomon d'Ivry quand j'ai commencé par écouter les émissions dans ma classe dès la création de Radio Cartable. Alors on recevait chaque semaine le programme avec une grille d'écoute qu'on renvoyait au studio Maurice Thérèse. On pouvait même gagner une cassette de l'émission à l'époque. Puis d'autres collègues de l'école m'ont imité. Et alors on se réunissait, parfois à deux classes dans une même salle, pour écouter ensemble l'émission. Mais faire de la radio, c'était abstrait pour les enfants. C'est pourquoi on est allé visiter le studio. Pierre était ravi de nous montrer la petite salle d'enregistrement, les différents appareils. Alors il y avait à l'époque le magnéto à bande, la table de mixage. Certains enfants pouvaient en plus s'asseoir devant un micro et faire quelques essais. Et pour moi, il ne me restait plus qu'à me lancer, moi aussi, dans cette aventure de radio. Alors, les thèmes d'émission étaient choisis en classe, puis on les préparait, et on partait enregistrer au studio ensuite. Plus tard, l'idée a germé d'installer un mini-studio à l'école à Jacques Solomon. Bon, à cette époque, je pratiquais des correspondances scolaires avec des classes en Martinique, en Côte d'Ivoire, et mes élèves pouvaient partager tous ces échanges en radio. Puis j'ai quitté Ivry pour Villejuif. Et là, bien sûr, j'ai continué à écouter Radio Cartable avec mes élèves et à fabriquer avec eux des émissions.
Comment peut-on faire l'enregistrement d'une émission ? Il faut d'abord trouver des idées, le sujet, parler d'une sortie, une interview, raconter des charades, des contes, organiser des jeux téléphonés. On cherche le plan de l'émission, on fait des recherches. On s'organise entre nous, on distribue les rôles. Quand tout est prêt, on répète avant d'enregistrer. Quel est le matériel nécessaire ?
Il faut un très bon magnétophone et un très bon micro.
Lors de votre tout premier enregistrement, avez-vous tous parlé ? Aviez-vous le trac ?
Oui, nous avons tous parlé. On a surtout eu le trac dans le studio.
Est-il émouvant de parler à la radio ?
Déjà, on a le trac. On sait aussi qu'on va être écouté. Et ça, c'est très important. On réalise une communication, un partage.
Qu'avez-vous appris depuis que vous faites de la radio ?
On a appris comment fonctionnait une radio. On a aussi appris à parler devant un micro. On doit bien articuler, parler clairement. En écoutant les émissions des autres classes, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas.
Mais il y a eu des parents qui sont aussi impliqués, qui parlaient de leur métier. Et j'en ai eu un à l'occasion d'un voyage aux USA qui est venu raconter avec son fils cette expérience. En 1994, on a participé à des émissions qui portaient sur un même sujet. Alors, on faisait intervenir plusieurs écoles, et il y en avait qui étaient bien sûr hors d'Ivry. Alors, je peux citer celle qui a été enregistrée lors du 50e anniversaire de la libération de la France, qui s'est divisée en plusieurs parties. Il y avait une école du 20e qui parlait de libération de Paris. Donc, Maurice Thorez A parlait d'Ivry. Villejuif parlait de la libération de Villejuif. Et puis, il y a eu aussi la libération de Royan par une classe de l'école Solomon d'Ivry. Mais vraiment, l'un des moments forts de cette expérience radio a été le séjour à Aubenas, en Ardèche, au 5e assise de l'ANAREMS.
À mi-avril, nous étions à Aubenas pour les 5e assises de l'ANAREMS. Pierre, qu'est-ce que ça veut dire l'ANAREMS ?
Eh bien, ANAREMS, ce sont des lettres. A, ça veut dire association. N-A, c'est national. R, c'est radio, E, c'est en, N, c'est milieu, et S, c'est scolaire. Ce sont les premières lettres de cette longue phrase, Association nationale des radios en milieu scolaire. Et c'est vrai que c'était là que se sont rassemblés les élèves d'école primaire et les collégiens et les lycéens qui font des émissions de radio.
Avec Pierre, ma collègue Yolande et nos deux filles, Gaëlle et Sonia, élèves à Maurice Thorez et à Jacques Solomon, nous représentions Radio Cartable. Alors, nous étions la plus jeune radio représentée par rapport à l'âge de nos élèves, parce qu'elles avaient à l'époque que 9 et 10 ans. Nos apprentis journalistes ont donc fait des interviews sur le marché, elles ont rencontré le sénateur-maire d'Aubenas, et c'est dans son bureau même qu'elles l'ont interrogé. Une expérience vraiment enrichissante et valorisante surtout pour Radio Cartable. Alors, je finirai quand même en citant une enquête qui a été menée par le département des sciences de l'éducation à l'époque, de l'université Paris-Nord-Villetaneuse, sur l'expérience de Radio Cartable, qui se conclut ainsi. Donc là, je vous lis ce qui était écrit dans le journal. Dans le travail de construction des émissions, par leur recherche personnelle, par leur manière de s'entraider, par l'objectif d'avoir un produit fini de qualité, les enfants apprennent autant en termes de savoir que de compétences sociales.
Et pour ceux qui n'ont pas suivi notre première émission, contrairement à Jacqueline, voici une interview de 2004, enregistrée par Sébastien Froment, enseignant ressources, organisateur des 20 ans de Radio Cartable. Il avait réussi à réunir deux ex-élèves d'Einstein en CM2 à cette époque, et Monique Malvern, enseignante.
Un mot avant cette diffusion. Mille excuses à Monique, qui aurait dû figurer dans notre première émission en tant que pionnière de Radio Cartable. Elle était enseignante à l'école Einstein au début de la création de la radio. Puis, elle a continué à servir notre radio en étant trésorière d'Aradel. Il a fallu un peu de temps à Yolande pour retrouver cette interview dans nos archives de mars 2004.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Benjamin.
Bonjour, je m'appelle Ludovic.
Bonjour, je m'appelle Aurélie.
Bonjour, je m'appelle Anaïs.
Et moi, Zara.
Voulez-vous vous présenter ?
Avec plaisir. Alors, donc moi, je m'appelle Séverine Constant. Je suis donc sur la photo qui est parue dans Ivry ma ville. Et là, j'étais élève en CM2 à l'école Einstein avec Philippe Colomine. Là, maintenant, je travaille à la ville d'Ivry. Je suis animatrice multimédia et voilà.
Moi, pour ma part, je m'appelle Daravan Somsavadi. En fait, je travaille à l'école Maurice Thorez en tant qu'assistante d'éducation depuis la mi-octobre.
Quel est votre meilleur souvenir d'émission ?
Moi, mon meilleur souvenir quand on faisait des émissions comme ça, c'était que avec Philippe, donc notre instituteur, on préparait des pubs. Qu'on jouait ici dans le studio. Donc ça, c'était assez sympa. On faisait des émissions sous forme de sketch. Et c'était un bon souvenir.
Moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai le souvenir de cette émission de Christophe Colomb. Le sujet, c'était découvrir le personnage mystérieux. Et il s'agissait de deviner quel était le personnage célèbre hein, qu'on décrivait, sur lequel on donnait des indices. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça permettait aux enfants des écoles d'Ivry de pouvoir écouter l'émission en même temps et de pouvoir faire gagner des gains à leur école, des bonbons, des tas de choses, des tas de cadeaux. Et c'était assez, ça faisait vraiment jeu télévisé, mais pour les enfants. Et ça, c'était vraiment très, très rigolo. Et on s'y croyait vraiment, on se prenait vraiment au sérieux. Et on se sentait grand, quoi. Moi, je me souviens, on se sentait très grand. Et
juste un petit mot pour vous dire que là, on a un invité surprise dans le studio, donc qui va prendre la place d'un des enfants au micro.
Bonjour les enfants.
Bonjour.
Est-ce que vous savez qui je suis ?
Oui.
Oui, alors allez-y, dites-moi.
Tu les connais
Mais non, je les connais parce qu'ils étaient dans mon école. Je suis la directrice de l'école maternelle. Voilà. Et vous savez pourquoi je viens ici ?
Pour qu'on te pose des questions sur Radio Cartable.
Voilà.
Qu'est-ce qui était différent à Radio Cartable ?
Avant, quand moi je faisais des émissions, eh bien je vais te dire, on n'avait pas du tout de technicien par là-bas. Donc il fallait qu'on se débrouille tout seul. C'est-à-dire que le maître ou la maîtresse était toute seule avec quelques enfants. Et on faisait tout. On faisait la technique, on faisait l'émission et on les faisait en direct.
Quel est votre plus mauvais souvenir de Radio Cartable ?
Oh, je crois que j'ai pas de mauvais souvenir de Radio Cartable. Bon, quelquefois, la technique suivait pas. Ça nous est arrivé que l'émission soit coupée au milieu. C'était ça, nos plus mauvais souvenirs.
Suite à la parution de cette fameuse photo de classe du CM2 d'Einstein, dans notre magazine local Ivry Ma Ville, de janvier 2004, on a reçu un autre témoignage, mais celui-ci écrit pour les 20 ans de Radio Cartable, qui va compléter le précédent. C'est celui de Marion, ex-enseignante ivrienne, qui était à l'époque, donc en CM2, à laquelle j'ai demandé de faire une version audio pour notre radio. Écoutons-la.
Je ne suis pas sur la photo. J'étais en CM2 l'année précédente, l'année où Radio Cartable est lancée. Pas encore rodée, pas encore installée, mais déjà vivante. Je me souviens du générique, petite musique simple et naïve, des voix d'enfants. La radio des écoles d'Ivry. Je me souviens qu'on informait nos parents, grands-parents, oncles et tantes, amis et voisins de la diffusion des émissions que nous avions préparées. Je me souviens qu'on écoutait parfois ces émissions en classe. Je revois les visages attentifs, yeux dans le vague, pendant la diffusion. Parfois l'effervescence quand l'émission contenait un jeu. Je me souviens d'une photo de ma sœur Julie dans le studio d'enregistrement, devant un micro, les murs bleus aux nuages blancs. De l'autre côté de la vitre, des milliers de boutons, de balances, de petites lumières et d'aiguilles qui vacillent. Je me souviens de Pierre Laborie, qui me montre comment utiliser le matériel de l'intervieweuse. Hors mur. Un sac carré en cuir noir, à l'intérieur duquel se trouve un magnétophone sur lequel on branche un micro. Faire attention à l'aiguille, elle doit se trouver au milieu du cadran. Je marche lors d'une fête d'école, capte les sons de la fête, m'arrête pour interroger quelques personnes. Je me repasse la bande, vérifie la qualité des prises de son, repars. J'entends encore le bruit de la bande qu'on rembobine, de l'avance rapide pour caler un nouveau son. Plus que le studio, c'était cela que je préférais. Chasser les sons, les mots, les bruits et les impressions hors les murs. J'aimais la liberté que la préparation donnait lors des improvisations. J'aimais marcher avec la sacoche contre le flanc, le micro parfois presque rangé, parfois à bout de bras. Je crois que c'est cette expérience qui m'a donné envie d'être journaliste. J'ai continué à écouter la radio, beaucoup moins la télé. Puis j'ai eu envie d'enseigner, en me souvenant de ces moments de travail intenses pour nous, jeunes enfants, dans une ambiance sereine et parfois même joyeuse, en me souvenant du plaisir de découvrir et d'apprendre, en me souvenant du bonheur de grandir dans une école où notre parole était prise en compte, en me souvenant de Radio Cartable aussi peut-être, de la sacoche en cuir sur l'épaule, de la chasse aux bruits qui deviennent des sons, de la sensation de liberté devant le micro, pouvoir tout dire, de l'apprentissage de l'écoute et du partage. Je vous souhaite plein de bonheur radiophonique et longue vie à Radio Cartable.
Avec la deuxième période, nous avons parlé des enseignants ressources, ces enseignants hors classe qui ont choisi au fil des ans de faire vivre la radio. D'ailleurs, revenons sur le premier enseignant ressource du début de la deuxième décennie, Sébastien Froment, qu'il est resté de 2002 à juin 2004. Écoutons-le.
Bonjour Sébastien. On essaie de connaître toute l'histoire de Radio Cartable pour son anniversaire. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es exactement à Radio Cartable ?
Bonjour les enfants, je suis l'enseignant qui est responsable de Radio Cartable. Mon travail, c'est donc d'aider les enfants à faire des émissions de radio.
Comment as-tu appris à faire marcher Radio Cartable ?
Avant, j'avais une classe dans une autre école d'Ivry, donc j'étais professeur des écoles et j'avais une classe de CM2 à l'école Solomon. C'est là où j'ai connu Radio Cartable. Parce que quand je suis arrivé à Ivry-sur-Seine, j'ai rapidement su qu'on avait une radio, qu'on pouvait l'utiliser. Donc j'ai fait des émissions avec ma classe. Donc déjà j'ai pu voir comment Radio Cartable fonctionnait quand on était enseignant et quand on avait une classe. Et après, quand j'ai su que j'allais m'occuper de Radio Cartable, eh bien la personne qui était avant moi, qui s'occupait de Radio Cartable avant, pendant quelques jours, m'a expliqué comment fonctionnait Radio Cartable, et puis je l'ai suivi dans les classes un petit peu, et puis il m'a expliqué aussi comment on faisait tout le travail technique pour préparer les émissions.
Pourquoi as-tu choisi de t'occuper de Radio Cartable ?
C'est vraiment une autre façon de travailler. Les enfants travaillent pour de vrai quand on fait des émissions de radio. Ça veut dire qu'ils sont très très motivés, ils ont vraiment envie de faire ces émissions, et la plupart du temps tout le monde a envie. Donc c'est déjà quelque chose de très très positif. Je trouve que dans une classe, tous les enfants aient envie de faire la même activité. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi que tout le monde réussit quand on fait de la radio.
Marie-Claude, c'est la troisième décennie qui nous intéresse aujourd'hui.
Alors cette troisième décennie concerne Frédéric Garbe, qui est présent ici aujourd'hui, et qui a été l'enseignant ressource de 2010 à 2015. Nous aurions pu aussi inviter Laurent Paulet, qui a été l'enseignant ressource avant Frédéric, de mars 2005 à juin 2010. Il a été à l'initiative des classes relais, c'est-à-dire des classes volontaires qui servaient de relais entre les autres classes, dans un sens et dans l'autre. Elles apportaient des informations aux autres classes et essayaient de trouver dans les autres classes des projets qui pouvaient devenir des projets radio. C'est ça, Frédéric ?
Oui, c'est ça. Et puis, ils faisaient aussi une émission spéciale. En fait, chaque année, il y avait l'émission de l'école, en fait, l'école Solomon, l'école Thorez, en fait, où c'était une émission spéciale conçue uniquement par ces élèves-là.
Alors, pour combler l'absence de Laurent Paulet, je vous propose d'écouter son interview réalisée pour les 25 ans de Radio Cartable en 2009.
Sans lui, cette radio ne serait pas tout à fait la même.
Nous voulons bien sûr parler de Laurent Paulet, monsieur Radio Cartable, qui va nous faire découvrir son métier.
C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais pour faire de la radio, c'est pas juste venir devant un micro, s'asseoir et puis parler comme ça. Non. Ça se prépare. Donc forcément, on est obligé de travailler l'écriture, puisqu'il faut bien écrire, se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va poser comme question, ou qu'est-ce qu'on va dire dans notre reportage, dans notre jeu, dans notre enquête. Donc on doit écrire. On doit lire, ça vous le savez aussi, là la preuve, hein, vous avez préparé des questions, donc il faut quand même être capable de les lire après. Et il faut aussi être capable de parler, de s'exprimer, d'être capable d'interroger quelqu'un, d'expliquer des choses. Donc c'est tout un travail d'école, mais fait autrement. Donc ça, c'était le premier objectif. L'autre objectif, c'était aussi de faire découvrir la ville. Grâce à Radio Cartable, on fait des enquêtes, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Vous vous rappelez quand on a fait le portrait de Aurélie et Gaspard ? Peut-être que vous ne les auriez jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu cette interview avec Radio Cartable. Ça permet donc de bien découvrir sa ville. Ça permet aussi aux enfants de prendre confiance en eux. Peut-être qu'il y a des enfants, des fois, à l'école, eh ben, ils y arrivent pas très bien, ils ont des difficultés. Et peut-être qu'en faisant Radio Cartable, ça va leur donner confiance de se dire « Ah, mais je suis capable d'interviewer quelqu'un, je suis capable de faire un reportage, je suis capable d'aller enregistrer des gens que je ne connais pas » et de se dire « Mais alors, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire plein de choses à l'école. » Donc, ça permet aussi d'avoir confiance.
Sais-tu qui écoute Radio Cartable ? Seulement les classes d'Ivry ou bien y a-t-il d'autres auditeurs ?
Alors, oui. il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas forcément les enfants des écoles d'Ivry. Déjà à Ivry, on a des adultes qui nous écoutent. Vous, dans les classes, bien sûr, vous pouvez l'écouter avec toute la classe, mais il y a aussi des parents, des gens qui sont à la retraite, des gens qui ont la possibilité, qui nous écoutent régulièrement. Je sais que plusieurs fois, j'ai croisé des gens qui me disent « Ah, mais je vous écoute, on écoute les émissions de Radio Cartable ». On a aussi des gens dans toute la région autour de Paris, puisqu'en fait, on peut écouter en direct à la radio le jeudi, jusqu'à 70 km de Paris. Donc moi, quand je suis à Paris, quand je diffuse l'émission, quand vous savez que le jeudi, je me rends dans un studio où l'émission est diffusée, je reçois des appels téléphoniques et il y a des gens qui appellent en disant « Ah, écoutez, c'est formidable, je vous écoute, c'est bien ce que font les enfants, continuez, on peut entendre des enfants à la radio, c'est rare. » Et on a aussi, puisqu'on est sur Internet, des gens qui nous écoutent dans le monde entier. Alors ça paraît comme ça, un peu de se dire « Mais il raconte n'importe quoi, on ne peut pas l'écouter dans le monde entier. » Ben si, on a des téléchargements, puisqu'on sait, vous savez, quand les gens vont sur Internet et qu'ils captent l'émission, ils l'enregistrent, on sait dans quel pays les gens l'enregistrent. Et on en a dans plus de 30 pays différents. Parce que vous savez qu'il y a des écoles françaises un peu partout dans le monde. Donc des enfants qui sont français et qui sont à l'école, ben, ça leur permet d'écouter des choses qui sont faites. Et il y a aussi des gens qui l'écoutent pour apprendre à parler français. Parce qu'ils se disent que c'est un bon moyen d'apprendre le français, vu que ce sont des enfants qui parlent, donc le vocabulaire n'est pas trop difficile, ça leur permet d'apprendre à parler le français.
As-tu des assistants ?
Pas véritablement, mais en même temps j'ai plein d'aides, parce que comme on le dit, j'enregistre dans les classes, donc forcément il y a des maîtresses, il y a des maîtres qui sont là aussi pour aider, donc finalement ce sont des assistants, parce que je pourrais pas tout faire. Par exemple, vous, la classe relais, vous êtes aussi des assistants, parce que grâce à vous, il y a toute l'information dans l'école, ici à Joliot-Curie-B, c'est vous qui la faites. Moi, je ne peux pas être dans toutes les écoles, c'est pas possible, je peux pas travailler avec tout le monde en même temps. Donc les classes relais, ce sont vraiment mes assistants. Vous êtes là pour donner des informations, donner des idées, donner des aides. Vous avez vraiment un rôle très très important par rapport à Radio Cartable. Et tous les maîtres et maîtresses qui participent à Radio Cartable, ce sont aussi des assistants. Ils sont là pour qu'en classe, vous répétiez, que vous fabriquiez l'émission. Tout ce travail-là, ça serait impossible pour quelqu'un de tout seul. Je ne pourrais pas faire toutes les émissions tout seul. J'ai besoin de toutes ces aides-là. Donc, effectivement, finalement, j'ai beaucoup d'assistants, même si ce ne sont pas leurs vrais termes. Dans le studio, je me retrouve tout seul, mais en dehors, j'ai plein d'assistants, et heureusement.
Dans cette interview, Laurent Paulet parle du rôle important de la mairie. Monsieur Magnez, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Bonjour, dans un premier temps. Alors moi, je suis responsable du service enseignement. Et le service enseignement gère sur l'ensemble de la commune les écoles maternelles et les écoles élémentaires, en partenariat bien sûr avec les directions d'école et puis l'ensemble des personnels qui y travaillent. Alors concernant la ville, il y a toujours eu un engouement pour le fonctionnement de Radio Cartable. Ça a commencé bien sûr avec des aides matérielles, avec le prêt du local, avec l'installation du studio en 84 à l'école Einstein, et puis ensuite à l'école Maurice Thorez. Donc avec une aide matérielle sur la maintenance du studio, l'électricité, le téléphone, les prises internet, le ménage bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Et cette aide, elle a commencé donc avec l'école Einstein, elle s'est poursuivie à l'école Thorez. Il y a eu aussi toute une mise en valeur de toutes les activités de Radio Cartable, soit par l'intermédiaire des magazines qui existaient sur la ville, Ivry Ma Ville par exemple, avec soit le portrait du mois, soit des articles sur des projets qui pouvaient se développer avec des classes ou des écoles, et puis des projets à plus grande échelle, comme le patchwork de la paix, quand il y a eu le passage du millénaire. La ville, elle a aussi à chaque fois soutenu l'association et Radio Cartable pour obtenir les enseignants ressources nécessaires à son fonctionnement. Et on s'est toujours retourné vers l'éducation nationale pour insister sur la nécessité d'avoir les moyens humains pour que cet outil puisse continuer de fonctionner. Et puis, il y a eu aussi des aides financières à l'association pour que l'association puisse fonctionner en toute autonomie à partir de dépôts de projets avec des subventions donc versées tous les ans, et puis parfois avec des subventions un peu plus importantes en fonction du choix des projets ou des activités qui étaient organisées par l'association, en particulier au moment des anniversaires avec les expositions, ou lors de partenariats artistiques, ou lorsqu'il y avait besoin de renouveler du matériel. La ville, elle a toujours été très attentive à ce qu'effectivement cet outil puisse fonctionner et que les enfants d'Ivry puissent y participer.
En effet, l'association ARADEL, les amis de la radio de l'école, a été essentielle au fil de ces 40 ans. Elle l'est encore aujourd'hui pour Radio Cartable. Jean-Jacques Charbonnier nous en parle. Son interview date de 2013.
Aujourd'hui, vous êtes président d'Aradel. Mais qu'est-ce que c'est ?
Radio Cartable a besoin d'une association pour gérer Radio Cartable, pour s'occuper d'acheter du matériel, d'aller aux réunions pour parler de Radio Cartable, pour discuter avec la mairie, les autres, pour discuter avec d'autres associations. Aradel, ça sert à gérer, à défendre Radio Cartable.
Quoi, vous avez décidé de devenir président d'Aradel ?
Alors, comme je me suis occupé de Radio Cartable pendant 5 ans, et que pour moi ça a été une très bonne expérience, et j'ai vu que c'était un outil très intéressant pour les enfants et les élèves d'Ivry, quand je me suis retrouvé à la retraite, la moindre des choses, c'était de rendre le plaisir qu'on m'avait donné, la satisfaction que j'avais eu à travailler avec cet outil, et donc de devenir utile un petit peu à Radio Cartable en étant membre d'Aradel. Et puis c'est trouvé que j'ai d'abord été secrétaire, et puis pour des raisons de personnes, de secrétaire, je suis devenu président, mais c'est des fonctions, c'est pas...
Merci Jean-Jacques Charbonnier d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable.
Ben, je vous remercie d'avoir pensé à moi et je vous souhaite de faire d'excellentes émissions de radio cette année.
Je n'ai pas connu Laurent Paulet, car je suis arrivé à l'école Maurice Thorez A en 2010. Par contre, je vous ai bien connu Frédéric, j'ai travaillé avec vous. Je peux vous tutoyer ?
Ah ben oui, bien sûr.
Peux-tu parler de tes 5 ans d'enseignant ressources ? En quoi a consisté cette mission ?
Ben, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure dans l'émission, ben, ça consistait en fait à aider les enseignants dans leur projet de réaliser en fait des émissions radiophoniques. Donc comme moi j'étais déchargé de classe, donc bah, je venais les aider pour la conception de leur projet. Voilà. C'était aussi travailler avec les différents partenaires de la ville. Voilà, en gros c'était ça, mon travail. Ça prenait pas mal de temps.
Peux-tu évoquer quelques projets précis, quelques souvenirs ?
Bah, je dirais que le projet principal en fait... c'était en fait de faire une heure d'émission chaque semaine. C'est devenu une heure d'émission en direct. C'est pas du tout facile en fait de faire une heure d'émission avec à chaque fois des séquences inédites, en essayant de jongler avec des reportages, des interviews, des choses comme ça. Et donc, bah voilà, c'était vraiment mon projet essentiel. Il a évolué au cours de mes 5 ans, parce qu'on a eu la chance de repasser... bah toi, tu l'as connu, Léo. C'était de repasser, en fait, au direct. Et donc, c'est vrai que ça avait totalement modifié l'émission. Je crois que c'était ma deuxième année. Et donc, voilà, ça a permis de créer un vrai engouement autour de la radio sur mes 5 ans. C'était ça, en fait. C'était ça, le projet principal.
Et plus de vie qu'à direct.
Ouais. Tout ce qu'on a fait, en fait, les partenariats avec la ville, le partenariat avec la ville, le salon éducatec et éducatiste, toutes ces choses-là, en fait, ça nourrissait nos émissions de radio, en fait.
Alors, le salon existe toujours, d'ailleurs. Il avait encore lieu en novembre cette année, l'année dernière, en 2023. C'est le salon de l'innovation numérique dans l'éducation. Et dans ce salon, il y a donc des conférences, il y a des tables rondes, il y a des présentations de matériel, mais aussi des présentations d'activités dans les classes. Et Radio Cartable a été sollicité pour présenter, c'était je crois en 2014, présenter l'activité Radio Cartable dans les classes. Donc on avait repéré une classe de cours moyen, parce que c'était quand même difficile. Et justement, Léo a participé à cette initiative, et c'était un grand moment. Tu t'en souviens, Léo ?
Je m'en souviens très vaguement.
Mais tu sais qu'en fait, elle était venue même dans le studio pour vous briefer.
Ah bon ?
Elle était venue en fait bénévolement, et en fait, elle vous posait des questions pour vous préparer.
Ça, je m'en souviens plus, mais... Et je m'en souviens que c'était, on va dire, une mission un peu importante et qui nous stressait aussi, puisque c'était la première fois qu'on parlait devant beaucoup de gens. C'était pas comme quand on est dans le studio et qu'on est entre nous... qu'on pouvait rigoler, etc. Là, c'était vraiment du sérieux et c'est l'un des seuls souvenirs que j'ai avec les copains et les copines qui étaient là-bas avec moi. Et Frédéric.
Oui, il y avait aussi Frédéric, c'est vrai. Et la deuxième fois, on a été encore sollicité. C'était en 2016. Cette fois-ci, on dépasse un peu de notre période, mais quand même. Et on nous avait demandé, Radio Cartable devait interviewer la rectrice de l'Académie de Créteil, ce qui n'était pas rien. Donc, les enfants avaient préparé des questions, on avait beaucoup, beaucoup travaillé autour de ça. Et le jour fatidique, où dans le salon, la rectrice s'est présentée et les enfants ont commencé à l'interviewer. Et d'un seul coup est arrivé quelqu'un qu'on n'attendait absolument pas, la ministre de l'Éducation nationale, Najed Belkacem. Et les enfants ont été un petit peu surpris. Et elle s'est emparée d'un casque, s'est mise devant un micro et a attendu les questions des enfants. Et je me souviens d'une petite fille qui était avec ses questions à la main. Et après, elle nous a dit « Je savais pas quoi faire ». Mais j'ai posé les mêmes questions, puis c'est parti. Voilà.
Bravo, bravo, bravo.
Nous avons retrouvé cette interview diffusée lors de l'émission du 4 décembre 2014.
Bonjour Madame la Rectrice.
Bonjour.
Nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Bien écoutez, moi je suis très heureuse d'être avec vous aussi aujourd'hui.
Voici la première question. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Alors, je m'appelle Béatrice Gilles, je suis la rectrice de l'Académie de Créteil et mon travail consiste à m'occuper de tous les élèves de l'Académie de Créteil. L'Académie de Créteil, c'est le département de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne. Donc, à m'occuper de tous les élèves de cette académie, de toutes les écoles, de tous les collèges, de tous les lycées, de tous les enseignants, de tous les personnels, pour que ça se passe au mieux pour tout le monde et que surtout, les élèves puissent réussir leur parcours scolaire, être heureux à l'école et apprendre beaucoup, beaucoup de choses.
Avez-vous toujours fait ce travail ?
Non, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai d'abord été professeur de lettres. J'ai enseigné le français, le latin et le grec dans des établissements scolaires. Ensuite, j'ai complètement changé de travail. Je suis devenue magistrat financier. Puis ensuite, je suis revenue à l'éducation nationale où j'ai fait beaucoup de métiers différents jusqu'à 2012 où je suis devenue rectrice d'académie. D'abord en Lorraine et puis ensuite à Créteil.
Nous sommes donc en direct du salon Educatech Educatis. Quel rapport lie la technologie à l'éducation ?
À l'éducation. Alors d'abord, il est normal que tous les jeunes apprennent à la fois le sens et les techniques des nouvelles technologies. Et donc c'est très très lié à l'éducation au sens réel du terme. Et puis ensuite, on sait que tous les élèves, ils utilisent les tablettes, les smartphones, les portables, tous les jours. Et donc, on sait aussi que c'est un objet d'éducation. Il faut que les élèves apprennent à s'en servir, apprennent aussi à prendre des précautions avec l'utilisation de toutes ces technologies nouvelles et que ça fasse partie de leur apprentissage de futurs adultes et de futurs citoyens.
Nous avons nous-mêmes déjà travaillé avec Radio Cartable dans notre classe. Nous étions chargés d'une rubrique des actualités d'ici et d'ailleurs. Cela nous a appris à nous intéresser au monde qui nous entoure. Pourquoi, d'après vous, la radio, comme les autres technologies, peuvent être utiles dans nos classes ?
Alors, il me semble que c'est très utile parce que d'abord, ça va vous apprendre à comprendre l'ensemble des médias, radio, télévision, réseaux sociaux. Et l'éducation aux médias, c'est très important dans l'éducation. Puis ça vous apprend certainement à préparer les questions, à vous exprimer, à écouter les réponses, à refaire des montages après. Ce qui fait que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses avec Radio Cartable et j'en suis très heureuse.
Dans le cadre de nos recherches pour la préparation de l'émission sur les actualités, il fallait bien faire attention aux informations que nous entendions. Pensez-vous que grâce aux nouvelles technologies, les enfants peuvent apprendre à développer leur esprit critique?
Bien sûr, et puis c'est très important de développer son esprit critique. C'est très important de vérifier quand on est journaliste les informations, leurs sources, pour voir si effectivement vous allez, comme c'est là dans la charte de déontologie des journalistes, si vous allez bien dire à la radio des choses qui ont été vérifiées, qui sont donc vraies, hein, pour ne pas induire en erreur ceux qui vont vous écouter. Donc c'est très très important, ça aussi bien sûr.
Voilà madame la rectrice, notre interview est terminée. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions et au revoir.
C'est moi qui vous remercie.
Frédéric, un autre gros moment comme celui-là ?
Bah oui, on a travaillé en fait sur les 5 ans où j'étais en poste, on a travaillé plusieurs fois avec France Inter. Donc c'était plutôt assez intéressant parce qu'en fait on rencontrait les vrais, quoi, les professionnels. Donc on a été invité notamment au journal de 13h, on est parti avec une... Tu y étais pas Léo ? On avait changé d'élève. Mais on était parti avec une petite équipe au journal de 13h et c'était... Je me rappelle, c'était un super souvenir parce qu'on avait découvert que finalement... Alors bien sûr, avec d'autres moyens, hein, mais c'était un petit peu ce qu'on faisait en fait. Ils avaient un studio, ils avaient un conducteur d'émission, ils faisaient à peu près les mêmes choses que nous. Hein. Mais c'était des grands quoi. Et puis Claire Servajan, c'était la journaliste du 13h à l'époque, elle avait invité les enfants à la table. Et puis elle leur avait proposé en fait, il y avait eu une interview, je ne sais plus de quelle personne, je crois que c'était... C'était au sujet des animaux, et puis elle avait dit aux enfants, bah, si vous voulez intervenir, en fait, vous intervenez en direct, quoi, on est en direct dans le 13h. Et puis l'émission se passe, on fait l'émission, et puis finalement les enfants ne sont pas intervenus. Et puis elle vient me voir à la fin de l'émission, puis elle me fait, bon bah c'était super, hein, tout s'est bien passé, puis je lui fais, bah ouais, mais finalement les enfants ils ont pas parlé. Donc oui, ça s'est bien passé. Mais elle fait, ben ouais, mais c'est parce qu'en fait, ils savent faire de la radio, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu prendre le micro juste pour dire quelque chose. Ils n'étaient pas du tout, elle les regardait, ils n'étaient pas du tout déconcentrés, c'est-à-dire qu'ils restaient en fait calmes, ils écoutaient vraiment, vraiment les personnes, la personne à interviewer. Et donc c'est vrai que c'est toutes ces petites choses-là, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte quand on fait le métier d'enseignant en ressources, mais il y a plein de... Il y a plein de compétences en fait que les enfants acquièrent comme ça et qui sont hyper importantes. Oui, en fait, le téléphone sonne, il se délocalisait toute une semaine dans différents établissements. C'était pour la semaine de la presse à l'école. Et donc, nous, on était la seule école, c'était les seuls enfants de l'école élémentaire. Et donc, ils étaient venus ici à Thorez. Et donc, ça avait été un travail en amont de plusieurs mois parce que les journalistes étaient venus voir les enfants. Les enfants venaient de différentes écoles, de 5 écoles différentes, et puis ils avaient choisi le thème. C'était les animaux en voie de disparition, donc un thème qui correspondait aux gamins, quoi, qui était important pour eux. Et puis tout s'était très très bien passé, il y avait eu vraiment un travail important en amont avec les enseignants des classes. Et puis le jour J, c'était génial, quoi. C'était, ouais.
Et c'était en direct. J'étais présent. Et franchement, ça a été un super moment.
J'étais là aussi, dans le public. Justement, pour les invités, c'était un super moment, inoubliable. Pour moi aussi. Mais encore plus pour nos journalistes en herbe de Radio Cartable, aux côtés des journalistes de France Inter.
Oui, et il y a eu une anecdote assez savoureuse. C'est que Hélène Jouan, qui présentait donc l'émission, quelques minutes avant l'émission, a commencé à filer son texte, c'est-à-dire à se le mettre en bouche. Et tous les gamins qui étaient autour d'elle ont pris leur texte et ont fait de même. Parce qu'on avait du mal à leur faire faire en temps ordinaire.
Bon, ben un petit extrait de ce téléphone sonne. On écoute.
Bonsoir et bienvenue dans le téléphone sonne.
Je m'appelle Nathan, j'ai 9 ans et ce soir je suis accompagnée par 15 camarades de 5 classes des écoles d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais dans notre ville, nous avons une radio faite par les enfants et pour les enfants. Ça s'appelle Radio Cartable. Mais ça, Hélène va vous en parler tout de suite.
Eh bien, Radio Cartable, Nathan vous a tout dit, c'est fait par les enfants, mais comme des pros. Vous pouvez d'ailleurs les écouter tous les jeudis de 14h à 15h. Ils sont en direct sur 89.4 avec des reportages, des interviews, des infos, des feuilletons et même des jeux. C'est une vieille radio qui existe depuis 1984, une initiative d'enseignants qui se sont dit que le média radio, bah franchement, pour apprendre à parler, à aller à la rencontre des gens et à sortir de soi-même, il n'y avait rien de mieux. Et ce sont donc des apprentis journalistes de CM1 et CM2 réunis ce soir à l'école Maurice Thorez qui sont aux manettes du téléphone sonne ce soir. Ils vont vous présenter leurs invités. Mais d'abord, Joseph, de quoi va-t-on parler ?
Bonsoir, aujourd'hui nous allons vous parler des animaux en voie de disparition. Nous avons choisi ce thème car nous avons remarqué que dans le monde, les animaux sont de plus en plus menacés par l'homme. Pourquoi ? À cause du braconnage ou la déforestation, par exemple. Mais est-ce partout pareil ? Quelle est la situation ? Et en France, quelles sont les espèces en voie de disparition ? Peut-on lutter pour empêcher cela ?
Eh bien, autant de questions que les élèves vont poser dans quelques instants, mais nous attendons évidemment également les vôtres par téléphone au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux parents, aux professeurs qui nous ont donc rejoints dans le préau de l'école Maurice Thorez. Et pour répondre à toutes vos questions ce soir, eh bien, nous avons deux invités. Première invitée, c'est vous, Victoria, qui nous le présentez.
Bonsoir, Stéphane Ringuet.
Bonsoir.
Vous travaillez à la WWF, c'est-à-dire la World Wide Fund for Nature. Ça signifie en français le Fonds mondial pour la nature. C'est une organisation non gouvernementale de protection de la nature et de l'environnement. Vous êtes aussi docteur en écologie tropicale au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et vous êtes encore directeur régional du programme Trafic Afrique Centrale depuis 2010. En un mot, c'est quoi ce programme ?
En un mot, ce programme, c'est un programme qui vise notamment à soutenir la protection des espèces sauvages dans le bassin du Congo. Donc le Congo, c'est une région qui se situe en Afrique centrale. Donc pour donner quelques pays, si vous connaissez bien la géographie, c'est le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Congo, Brazzaville, etc. Donc cette région, c'est un des endroits les plus verts de la planète. Si vous êtes un extraterrestre, regardez la planète. Il y a trois zones qui sont très vertes, où il y a beaucoup, beaucoup de forêts. Le bassin du Congo en est une. Donc il y a des enjeux forts pour protéger des grandes espèces, notamment les éléphants ou les grands singes. Donc ce programme vise à protéger notamment ces espèces.
Merci Stéphane Ringuet. Deuxième invité, eh bien c'est Lou qui nous le présente.
Bonsoir Michel Saint-Jean.
Bonsoir Lou.
Vous dirigez depuis 2009 la ménagerie du Jardin des Plantes dans le 5e arrondissement de Paris. Vous êtes aussi enseignant-chercheur. Avant de rejoindre le muséum, vous avez passé plusieurs années en Arabie Saoudite et au Maroc, où vous avez participé à des programmes de sauvegarde des espèces menacées. Pourquoi est-il important, selon vous, de faire des émissions comme celle-ci sur les animaux en voie de disparition ?
Eh bien, c'est extrêmement important parce que ça permet justement à vous, les enfants, qui de prendre conscience qu'aujourd'hui la nature est en danger, qu'aujourd'hui il y a énormément d'espèces qui disparaissent. On parle aujourd'hui de la 6e crise d'extinction et il y a eu par le passé, dans le temps géologique, de nombreuses périodes où de nombreuses espèces se sont éteintes. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les causes des extinctions passées, elles étaient naturelles. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est la cause du déclin. Donc, c'est très, très important de prendre conscience de cela pour pouvoir, quand vous serez un petit peu plus âgé, nous aider à prendre des mesures pour préserver la planète.
Eh bien, c'est parti pour une émission donc extrêmement importante. C'est parti pour les questions.
Alors, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée ?
Alors, on commence par une définition. Qui est-ce qui veut s'y coller ? Michel Saint-Jean ?
Alors, si vous voulez. Alors, une espèce en voie de disparition, c'est une espèce qui risque de s'éteindre dans un futur relativement proche. C'est une espèce qui, si on ne fait rien pour éliminer les causes du déclin, elle disparaîtra. Donc, aujourd'hui, on a des espèces en voie de disparition et l'étape suivante, c'est une espèce éteinte.
Merci et bravo vraiment aux 5 classes d'Ivry-sur-Seine qui ont activement, brillamment animé le téléphone sonne. La relève est assurée, c'est sûr. Un immense merci à Frédéric Garbe qui est l'enseignant qui anime Radio Cartable. Et merci vraiment à tous les enseignants d'Ivry qui ont travaillé avec Aubélie Villiers.
Et cet autre gros moment auquel j'ai participé, l'exposition des 30 ans de notre radio à l'espace Gérard Philippe à Ivry. Peux-tu nous en parler ?
Oui, alors c'était en 2014, c'est ça, hein ? Pareil, c'est un grand souvenir. Donc là, on avait préparé avec... Ouais, je crois que c'est ça. On me souffle 8 classes en élémentaire et 8 classes, je crois, en maternelle. On avait préparé une exposition, en fait, pour retracer un petit peu les 30 ans de Radio Cartable. Donc, chaque classe avait un thème, en fait, qui a donné lieu à un panneau avec des photos qui illustraient un petit peu ce qui se passait à la radio. Par exemple, des séquences... Il y en a un ici. Les différentes séquences radiophoniques, l'histoire aussi de Radio Cartable. Et puis, les maternelles avaient un espace où ils avaient créé des objets avec les enseignants, des objets qui étaient liés à la radio, donc des cartables, des micros, qui étaient super beaux. Et puis après, l'exposition a eu lieu au mois de mai, à l'espace Gérard Philippe. Ça a été vraiment un grand, grand succès. Il y avait beaucoup de classes, beaucoup de monde. Et puis surtout, ce qui était génial, c'est que après, l'espace Gérard Philippe, en fait, a ouvert au public, aux classes, aux différentes classes. Il y a eu un planning important. Et toutes les classes pouvaient venir voir l'exposition. Et il y avait des classes qui ne participaient pas forcément à Radio Cartable et qui pouvaient découvrir l'univers de la radio. Ça pouvait leur donner, en fait, envie de faire de la radio. Donc voilà, puis c'était pas une finalité, mais c'était important en fait pour les enfants, parce que voilà, Théo, quand il avait 8 ans, ça retraçait un petit peu tout ce qu'il avait fait avec la radio. Je sais que les gamins étaient super contents de venir, ils étaient fiers en fait de représenter la radio, et que les parents, ils le voient aussi. Alors bien sûr, ils étaient fiers lors de l'émission, quand ils passaient en direct et qu'ils écoutaient, mais je me rappelle, c'était important pour eux en fait, les 30 ans.
L'émission tire à sa fin. Le mot de la fin, Yolande ?
Bon, écoutez, Radio Cartable entame donc sa 41e année. Je lui ai écrit un petit poème de bonne année, même si la période traditionnelle est passée, mais il y a aussi le nouvel an chinois, le 10 février, et l'année du dragon. C'est un poème détourné de qui ? À vous de trouver le poème original. Voici le mien. Bonne année à Radio Cartable, ou qui a fêté ses 40 ans. Bonne année à tous les enfants. Vive leurs émissions formidables. Bonne année à Radio Cartable, aux petits loups qui donnent de leur voix, assis tout autour de sa table, qui le font toujours dans la joie. Bonne année à tous ceux qui l'aiment et qui l'entendent ici-bas. Et bonne année aussi, quand même, à tous ceux qui ne l'écoutent pas.
entendre Bibliomanie et Devinette. Il va y avoir une musique de transition et vous allez chercher pourquoi. C'était donc la truite de Schubert et maintenant place à Bibliomanie.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique l'incontournable Flo Descailloux, qui a beaucoup travaillé pour l'émission, et grâce aussi à l'auteur que je vous présente, Henriette, notre invitée du jour, Henriette Chardac, qui vient nous présenter L'oublié de Salerne, le roman de Trotula, médecin, sage-femme et féministe du XIe siècle. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur éditeur. Henriette Chardac, bonjour.
Bonjour Valère Marie.
Donc on s'était vu au sujet d'Élisée Reclus, nous avions fait une une passionnante émission et rencontre autour d'Élisée Reclus. Nous nous retrouvons autour d'une oubliée, l'oublié de Salerne. Et mon petit doigt me dit que, Henriette Chardac, que vous aimez bien les têtes chercheuses. Et comme je suis moi-même une petite tête chercheuse, et que voilà, c'est pour ça qu'on vous invite en plus à l'émission Bibliomanie, parce que voilà, vous êtes vous-même une tête chercheuse, vous aimez bien les têtes chercheuses, et vous nous parlez ici d'une femme passionnante, oubliée de Salerne d'ailleurs, mais Trotula, qui est la première femme médecin, sage-femme, féministe à sa façon, enfin une femme étonnante, complètement oubliée, plagiée, méconnue, plus que méconnue. Alors qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ce que vous appelez votre film de papier ?
Alors, vous avez bien présenté le labyrinthe. C'est-à-dire que quand on a une formation de journaliste comme vous, on fait des enquêtes, on est un petit peu le flic de l'histoire. Et on a la chance de pouvoir parler de sujets qui fâchent, mais qui fâchaient il y a un, deux, trois ou, siècles, voire mille ans. Alors, Trotula, ça veut d'abord dire la truite, Trotin, Trotula, la truitelle, et merci pour Schubert. on voit qu'on va tourner autour du poisson, mais je ne vais pas noyer le poisson. Trotula, on en parle très, très, très rarement dans l'histoire. Mmh. Le premier qui en est parlé, c'est Rabelais, qui a dit un jour « Oui, on parle d'un médecin du XIe siècle qui s'est occupé des maladies des femmes, mais ce n'est pas Eros. Eros n'a pas existé. Mmh. C'est juste pour masquer le fait qu'il y avait une femme médecin, professeure de médecine, et bientôt directrice de la première école laïque de médecine en Europe. » Bon, ça ne fait pas un sujet. Mais j'ai fait un deuxième film de papier. Je me suis plongée dans la vie de Léonard de Vinci et je m'aperçois de deux choses. La première chose, sa maman venait d'Inde, du Gujarat. Donc, elle était très grande et on l'appelait fille de Trotula parce qu'elle avait été visiblement violée par le père de Léonard et donc, c'était une fille mère. Donc, j'ai voulu faire une note sur Trotula, di Ruggiero, et je me suis rendu compte que la note augmentait au point de devenir un livre.
Il faut dire que vos notes, Henriette Chardac, sont très abondantes. C'est-à-dire, ce sont des notes, c'est comme des ouvertures, comme des fenêtres sur cours. Ce sont des notes, à chaque fois, c'est une histoire dans une autre histoire. Vous ouvrez vraiment une grande fenêtre sur un point. Et là, et votre éditeur, d'ailleurs, a bien fait les choses, puisque ce sont des petits paragraphes semi-encadrés. On peut, pour les lecteurs, aller encore plus loin, cheminer encore. S'ils ont envie de chercher, ils chercheront. S'ils ont envie de trouver... poursuivent leur enquête à leur tour. Hein. Nous sommes tous des lecteurs-enquêteurs ou lectrices-enquêtrices.